Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 8 mai. Les européennes, Valérie Ayé en meeting à Lyon Confluence, ce sera lundi prochain, le 13 mai. Les maires de Lyon et Villeurbanne, Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel, signent une tribune pour réclamer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Nous parlons d'une rencontre entre étudiants, professeurs et personnalités politiques qui s'est tenue à Lyon lundi au cœur des discussions. Une potentielle réforme de l'enseignement face au contexte écologique. Explication avec Maëva Martel. Le coup d'envoi des nuits sonores. Le 8e arrondissement va vivre au rythme de la musique et des pas de danse pour le Festival de la danse qui se déroulera à partir du 21 mai pendant une semaine. Explication avec Antoine Piras. Et puis il manque une plaque sur le mur des Prix Lumière. La plaque de Gérard Depardieu a disparu rue du 1er Film.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les élections européennes se préparent. Ce sera le 9 juin. Valérie Ayé en meeting à Lyon. Confluence, ce sera le 13 mai, donc lundi prochain. Le premier meeting de campagne en Auvergne-Rhône-Alpes de l'eurodéputée Renaissance, tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, se déroulera à Lyon. Valérie Ayé n'affiche plus que 16% d'intention de vote dans les derniers sondages, en baisse de 4 points depuis février. Le meeting de lundi se tiendra au Doc Circus. Le coup d'envoi de la réunion public est annoncé pour 19h30. Ouverture des portes à 18h. Seul le public inscrit pourra participer dans ce restaurant qui comporte seulement 500 places. Un ou plusieurs ministres pourraient faire le déplacement. La polémique autour des PFAS au sud de Lyon. Christophe Bouvier, le maire de Chasse-sur-Rhône, alerte Muriel Laurent, la candidate de la liste Réveiller l'Europe, conduite par Raphaël Glucksmann et maire de Fezin. Ces élections européennes sont une opportunité de faire avancer le combat des maires contre cette pollution à grande échelle. Parmi les revendications portées par le maire de Chasse, le principe de pollueur-payeur apparaît comme incontournable. Actuellement, il n'est pas respecté. La dépollution de l'eau peut coûter jusqu'à 5 millions d'euros. Ce n'est pas aux consommateurs de payer, explique Christophe Bouvier. Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, ont signé une tribune pour réclamer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, comme Anne Hidalgo et Éric Piolle, les maires de Paris et Grenoble. Au total, une cinquantaine de maires ont signé cet appel au niveau européen à l'initiative du réseau Voting Rights for All Residents. Selon un sondage récent, 66% des Français sont favorables à une telle mesure. Une rencontre entre étudiants, professeurs et personnalités politiques s'est tenue à Lyon lundi au cœur des discussions, une potentielle réforme de l'enseignement face au contexte écologique. Cette thématique tient à cœur aux étudiants qui se sentent impuissants face aux aléas. Notre journaliste Maëva Martel est allée à la rencontre de ces acteurs de demain.
Comment transformer l'enseignement supérieur face à la crise écologique? C'est la question à laquelle les étudiants cherchent une réponse. Pour en discuter, ils ont invité des chercheurs et des élus au campus Berge du Rhône de l'Université Lyon 2. Pas moins de 80 personnes ont pris part à une grande discussion autour du sujet. Sous forme d'ateliers, on évoque les maquettes pédagogiques, la place des étudiants dans les prises de décision ou encore les compétences liées à la transition. L'objectif est de trouver des solutions pour inclure l'urgence écologique dans les formations. Pour Louis et Margot, deux étudiants impliqués dans les questions écologiques, il est important de faire bouger les choses.
Concrètement, ce qui nous manque, c'est de la cohérence entre les cours, parce qu'on a des cours un peu, on commence à avoir des cours sur la transition écologique, mais en fait, qui contredisent le cours d'économie qu'on vient d'avoir, parce qu'il y a des enseignants-chercheurs actuels qui n'ont pas forcément le temps ou l'énergie ou l'envie de changer la façon dont ils enseignent. Donc on a besoin de cohérence dans les maquettes et dans toutes les formations.
Dans les études que je suis actuellement, le sujet de la transition écologique n'est pas abordé, que ce soit dans le cadre de ma licence que j'ai pu faire, dans le cadre du master que je suis actuellement. Donc c'était avec cette envie de faire en sorte que pour les générations futures, ils puissent avoir ce socle de compétences et de connaissances communs nécessaires pour appréhender les enjeux du réchauffement climatique.
Pour se faire entendre, les étudiants ont invité des personnalités politiques. Marie-Charlotte Garin, députée écologique de la 3e circonscription du Rhône, et Jean-Michel Longueval, vice-président à la métropole de Lyon en charge de la vie étudiante, étaient présents. Conscients du problème, ils souhaitent apporter leur aide aux étudiants.
C'est important parce que l'enseignement supérieur, c'est le lieu où on se forme sa vision du monde, et il est normal que dans un lieu où on se forme la vision du monde, il faut qu'elle soit le plus adaptée possible aux enjeux de notre temps. Et l'adaptation à la crise écologique, et bien c'est l'enjeu majeur du siècle à venir. Moi, j'ai un rôle en tant que députée d'opposition, notamment de pointer du doigt les manquements de l'État, et donc aussi peut-être tous les les points de plaidoyer qui peuvent être ceux des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur dans les temps à venir. Et puis évidemment, de soutenir une vision politique du monde.
On sait très bien que la question de l'urgence écologique est portée aujourd'hui principalement par des jeunes étudiants qui s'intéressent à ce que demain sera la planète. Au titre de la métropole et de la ville de Lyon, on aide aussi ces associations au plan financier, c'est-à-dire on les aide dans leurs projets, amener des contenus, amener des réseaux, amener des intervenants possibles pour faire concorder les politiques publiques avec effectivement les aspirations des jeunes.
Face à l'urgence et à de nouvelles attentes sur le marché du travail, les étudiants seront amenés à penser l'impact environnemental et social dans leur action. Pour Laurence Rocher, vice-présidente de la transition écologique à l'université, la question doit donc être résolue. Pour les former le mieux possible, elle propose plusieurs solutions.
L'idée, c'est de poursuivre et de continuer à proposer des enseignements de spécialité, sur, notamment au niveau master, qui ont trait aux enjeux écologiques, que ce soit dans le domaine du droit, de la géographie, de l'économie ou d'autres disciplines. Et d'autre part, ce que l'on commence à faire à partir de maintenant, c'est le fait de proposer des formations, des initiations transversales aux enjeux de transition écologique à tous les étudiants, notamment de premier cycle.
Ce dialogue a permis aux participants d'anticiper l'avenir. Chacun a un rôle à jouer, même si dans l'urgence écologique, il ne s'agit pas de jeu, mais bien d'adaptation.
Merci Maëva. Le chef Marc Boissieu va s'installer à Rérieux dans l'Ain. Le gagnant de Masterchef 2013 se lance dans un nouveau projet. Après avoir vendu son restaurant L'Inattendu au Breteau, il reprend l'Eau de Saône à Rérieux, un établissement exploité pendant 15 ans par Carole et Thierry Verrier. C'est l'occasion pour Marc Boissieu de se rapprocher de la ville de Anse dont il est originaire. Le chef entend privilégier encore plus les produits de saison en étroite relation avec les producteurs locaux du Beaujolais. Ouverture prévue en juin.
Lyon demain, la radio des Lyonnais qui font bouger la ville.
Les Nuits Sonores 2024 débutent ce soir jusqu'à la fin du festival prévu dimanche. Le Citral propose une offre de transport renforcée. Objectif, optimiser l'accès aux transports en commun aux 5 sites principaux des Nuits Sonores. À Oulin, les grandes locaux, et à Confluence, la Sucrière, le Sucre, H7 et le HIT. Les 4 lignes de métro seront prolongées le soir jusqu'à 1h du matin. La ligne B du métro sera renforcée avec une fréquence jusqu'à 2 minutes à partir de 23h10. T2 est également renforcé en soirée pour permettre aux festivaliers de faire le trajet entre Oulin et la Confluence. Top départ donc des Nuits Sonores dès 16h aujourd'hui aux Grandes Locaux, le nouveau lieu culturel de la métropole dans l'ancien technicentre SNCF à la Mulatière. Et ce jusqu'à minuit. Les Nuits Sonores se déroulent, je le rappelle, jusqu'à dimanche. Le 8e arrondissement de Lyon va vivre au rythme de la musique et des pas de danse durant le 8e festival. Du 21 au 29 mai, la Maison de la Danse a prévu de faire bouger les habitants. Que vous ayez le rythme dans la peau ou pas, vous pourrez profiter de nombreux spectacles. Pour en découvrir un peu plus, Antoine Piras est allé sur la piste.
Plusieurs représentations auront lieu dans la rue au sein de l'arrondissement. Le but est d'impliquer les habitants et les spectateurs, comme l'explique Thiago Guedes.
Ce qu'on trouve intéressant, c'est parce qu'en fait, on a une grande saison de spectacles à la Maison de la Danse, une saison très concentrée dans les spectacles qu'on voit en salle. Donc on peut participer aussi à beaucoup d'activités que la Maison de la Danse fait, mais en fait, ce festival, il est vraiment basé à la participation parce que nous, à la Maison de la Danse, on défend vraiment qu'un public, quand il peut rencontrer les artistes, peut participer. Après, il va vraiment mieux entrer dans des propositions qu'on peut faire en salle. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du projet global de la Maison de la Danse où ce temps fort, 8e festival, ça fait partie.
Plusieurs spectacles donc seront participatif, comme nous le présente le directeur de l'événement.
J'aime bien parler par exemple d'un projet qui s'appelle Babel. C'est un projet participatif avec 25 habitants, habitantes de 8e arrondissement. Un projet d'un artiste lyonnais qui s'appelle Jordi Galli. Donc en fait, qui fait un projet où ces 25 personnes vont construire d'une façon chorégraphique un grand objet à la place de la Targée. Ou par exemple, un spectacle de Mehdi Kerkouche qui avant a un atelier dans la halle du marché des États-Unis avec un atelier géant où tout le public, avant de voir le spectacle, peut danser avec Mehdi et sa compagnie. Donc en fait, ce festival, il était vraiment pensé avec beaucoup de projets où la participation du public, une participation plus ou moins active selon les besoins et les désirs de chacun et chacune, est vraiment au cœur de notre projet.
Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur le site de la Maison de la Danse.
Merci Antoine. Il manque une plaque sur le mur des Prix Lumière. La plaque de Gérard Depardieu a disparu rue du Premier Film, selon l'Institut Lumière. La plaque a été vandalisée à plusieurs reprises ces dernières semaines. L'Institut a donc fait le choix de ne pas la reposer, sans préciser si cela était une mesure provisoire ou définitive. L'Institut Lumière assure que ce n'est en tout cas pas une prise de position. En janvier, un collectif de jeunes cinéphiles avait publié une lettre ouverte adressée à Irène Jacob, la présidente de l'Institut Lumière. Il réclamait le retrait symbolique du Prix Lumière à Gérard Depardieu. Le monstre sacré du cinéma a perdu de son panache ces derniers mois. L'acteur est en effet jugé en octobre prochain pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage du film Les Volets Verts. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.